Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Chrétien Impact, ou ICC, Impact Christian Center. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis, transformés et propulsés vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 01 46 70 52 31 ou à l'adresse email suivante contact@icc-paris.org. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.
We thank you. Seigneur, nous te remercions. Ce matin, Père, nous sommes privilégiés et nous sommes honorés d'être ensemble, assemblés dans ta présence. Nous aurions pu être ailleurs, Seigneur. Ce matin, tu nous as accordé la grâce et le privilège. Certains pensent qu'ils sont là par hasard, mais en réalité, nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons au bon endroit, au bon moment et que nous sommes la bonne personne. Nous ne sommes pas une erreur, nous ne sommes pas quelqu'un, Seigneur, qui est là par hasard. Même si nos parents ne voulaient pas nous avoir, nous te disons merci de ce que le fait que nous soyons nés prouve, Seigneur, que ta volonté s'est accomplie. Parce que tu as dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Alors nous te disons merci, Seigneur, parce que nous sommes la personne que tu as choisie, que tu as sélectionnée, que tu as placée en Christ avant la fondation du monde. Nous sommes la personne, Seigneur, que tu as créée à ton image, selon ta ressemblance, pour refléter, resplendir, rayonner, Seigneur, tout ce que tu es. Ta gloire, ta splendeur, ta magnificence. Ce matin, Père, nous reconnaissons encore nos manquements, nos incapacités, nos faiblesses, Mais Seigneur, nous croyons que notre capacité nous vient de toi. Et nous te supplions simplement, Seigneur, de nous libérer la parole du royaume. Une parole qui construit, qui libère, qui recadre. Une parole qui relève, qui renouvelle, qui encourage, Seigneur, qui motive. Une parole qui nous propulse comme des flèches vers notre destinée. Une parole qui fait sortir de nous le meilleur que tu as déposé à l'intérieur de nous. Une parole qui nous rend, Seigneur, équilibrés, focalisés sur toi. Une parole, Seigneur, qui nous aide à faire venir ton règne, ton influence et ta souveraineté, ta domination, ton gouvernement, ton empire sur la terre au travers de nos vies. Une parole, Seigneur, pour laquelle nous disons avec toi que ton règne, notre Père, vienne. Inspire-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Challenge nos limitations. Développe notre potentiel. Insuffle la confiance et l'espérance dans nos vies. Seigneur, transforme nos mentalités. Challenge nos limitations. Élève ta bannière dans nos vies, Seigneur. Et qu'au travers de nous, Christ resplendisse, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être ces hommes et ces femmes de Dieu, ces champions. C'est ces championnes de Dieu qui donnent aux incroyants l'envie de revenir à toi, qui suscitent une espèce de jalousie pour que les gens puissent dire, mais quel est donc ton secret? Parce que simplement tu nous accordes la grâce de porter beaucoup de fruits. Et tu as dit dans ta parole, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. Alors la gloire de mon Père sera manifestée, exprimée, révélée au monde. Oh Père, s'il te plaît, challenge-nous ce matin. Nous te rendons déjà toute la gloire. Abaisse-moi et que Christ soit élevé. Parle-nous ce matin et transperce nos cœurs par ta parole et qu'elle nous emmène à la repentance. Pas une repentance cosmétique, non, une repentance radicale, un changement de mentalité sincère et profond, Seigneur, qui débouche et qui aboutit à une vie complètement transformée, épanouie et accomplie pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. God bless you in that place. Alléluia. Que quelqu'un dise à son voisin, ton Dieu ordonne que tu portes du fruit. Et puisqu'il ne t'a pas souri, tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, ton Dieu ordonne que tu portes du fruit. Est-ce qu'il a souri cette fois-ci? Que quelqu'un dise, gloire à Dieu. Ça fait, nous sommes dans notre troisième semaine, nous avons commencé cette série, le contrat de maturité avec Dieu, cette série que j'ai aussi renommée disant, ton Dieu ordonne que tu portes du fruit. Nous avons, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit les deux premières semaines, mais j'ai envie de vous encourager, s'il vous plaît, pour vous-même, pas pour nous, mais pour vous-même, offrez-vous ces enseignements. Que quelqu'un dise à son voisin, offre-toi ces enseignements. Arrête de dire, je n'ai pas le budget pour ça là, parce que mon frère, je sais que tu as le budget pour manger, pour nourrir ton ventre, et le budget pour nourrir ton esprit. Que quelqu'un dise amen. Nourrissons notre esprit, nous devenons ce que nous entendons. La bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que j'ai eu au téléphone, le mois prochain, par la grâce de Dieu, priez pour nous, je vais en Martinique. Amen. Le mois prochain, je vais en Martinique. Et vous savez, j'ai reçu un appel de la Guyane, de Kourou, où il y a un pasteur qui me disait, c'est pas possible, vos enseignements ont bouleversé ma vie. Alors il a commandé pour plus de 250 euros d'enseignement de ICC. Et il m'a dit que nos enseignements passent sur une radio chrétienne au Guyane. Je ne sais même pas quelle radio c'est, je n'en sais rien. Il me dit, je vous entends tous les jours à la radio, je vous entends sur Internet. Je dis, mon Dieu. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, venons à Kourou. J'ai dit, mon gars, c'est loin. C'est pas là qu'ils ont fait les essais nucléaires. Nous avons la foi, mais là, vraiment, vous comprenez. Alléluia. Simplement pour vous dire, ne sous-estimons vraiment pas ce que Dieu fait ici. Je vous assure, ne sous-estimons pas. Je reçois des emails du Maroc, du Canada, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, les deux Congos. Parce qu'il y en a un qui a usurpé le nom de l'autre. Non, pardon, pasteur Jacques, je demande pardon. Je reçois des emails de partout, de gens qui nous remercient, des gens qui nous encouragent, des gens qui nous disent, mais vraiment, franchement, que Dieu vous bénisse, parce que vous contribuez vraiment à créer un vrai changement de mentalité. Et moi, je dis, et nous disons, à Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. La gloire n'est pas pour nous. Rappelez-vous, lorsque vous pensez que c'est à vous qu'on fait des éloges, ça veut dire que vous devenez bête comme un âne. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Donc, il faut savoir rester humble et puis dire, Seigneur, à toi la gloire. Mais ceci dit, j'ai vraiment envie de dire, je sais que ce n'est que le commencement. Amen. Alors, nous sommes sur cette série passionnante sur un Dieu ordonne que tu portes du fruit. Porter du fruit, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion que Dieu donne, c'est un commandement. Et nous avons étudié la première semaine, nous avons étudié les mythes erronés que nous avons souvent sur la maturité. Nous avons vu pourquoi est-ce qu'il faut porter du fruit. Parce que je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont grandi, il y a des arbres qui ont poussé. Oui, c'est vrai, c'était une semence au départ. La semence a poussé, elle a donné un arbre, elle a donné des feuilles. Mais lorsque tu produis des feuilles, Dieu n'a pas dit, il t'a créé pour produire des feuilles. Il n'a pas dit porte des feuilles, il a dit porte du fruit. Que quelqu'un dise porte du fruit. La volonté de Dieu, c'est que nous portions du fruit et que nous resplendissions tout ce que Dieu est. Et la semaine dernière, nous avons dit qu'il fallait porter du fruit. Dieu nous appelait à porter du fruit dans les 5 domaines, les 5 C que nous avons définis. Nous avons parlé de porter du fruit dans le domaine de la connaissance. Et nous avons dit que la connaissance ne suffit pas à définir la maturité. Ça, c'est un mythe erroné que nous avions dans le passé. On pensait que plus je connais, plus je suis mûr. Ce qui est absolument faux. Mais nous avons dit que la connaissance était quand même importante et faisait partie des ingrédients indispensables à la maturité. Parce que tu ne peux dans la vie appliquer que ce que tu connais. Que quelqu'un dise Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de la compréhension, c'est-à-dire la perspective. Lorsque nous mûrissons en compréhension, en perspective, alors nous devenons comme Christ. Parce que la Bible dit que à cause de la joie qui lui était réservée, il a accepté la souffrance. Et il y a des gens qui ont souffert, qui sont passés par des épreuves difficiles, par des challenges difficiles. J'ai dit que la connaissance répond à la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et la compréhension répond à la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu le dit. Pourquoi, le pourquoi, les pourquoi de la vie, c'est ça la compréhension. Il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, il y a des parcours que nous avons expérimentés. J'en parle beaucoup dans mon livre, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Il y a des parcours simplement que chacun d'entre nous a expérimenté, il y a des expériences désagréables, amères que nous avons vécues et nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Mais je vous ai dit, lorsque nous mûrissons en compréhension, nous arrivons pas à justifier, à expliquer ce qui s'est passé. Mais nous arrivons à comprendre pourquoi est-ce que j'ai dû passer par là où je suis passé. Parce que je regarde aujourd'hui à ce que ça produit en moi. Que quelqu'un dise Amen. J'ai écouté Joyce Meyer, c'est une femme qui a beaucoup retenu mon attention. C'est une grande prédicatrice, très respectée aux États-Unis. Elle a un ministère télévisé qui bénit des millions et des millions de gens tous les jours. Et c'est une femme qui a été abusée, violée dans son enfance. C'est une femme qui a été salie. C'est une femme qui s'est mariée, qui a été rejetée par son mari, frappée par son mari, qui a divorcé. Et vous savez, quand vous passez par ce genre de crise, vous demandez, mais pourquoi moi? Qui a déjà demandé pourquoi moi? Pourquoi pas? Tu es qui? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Donc toi, on ne devrait pas te toucher, toi surtout pas, mon ami, dis à ton voisin, mûris. Et Joyce Meyer dit, je ne sais pas pourquoi je suis passé par là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au travers de ma vie, parce que vous savez, c'est difficile de conduire les gens là où vous n'avez pas été. C'est difficile de parler aux gens de ce que vous ne connaissez pas. Tu dis, tu sais, dans la vie, accroche-toi à l'Éternel. Hein? Attache-toi à l'Éternel. Écoute, tu es assis dans ton palais somptueux, tu n'as jamais manqué de sous. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est dans la galère au niveau financier? Tu vas lui dire quoi? Ah, tu sais, je sais que c'est Dieu. Tu sais, mais tu ne connais pas. C'est-à-dire, tu as le savoir, mais tu n'as pas l'expérimentation de la chose. Tu vas tenir avec une cuillère en or dans la bouche. Allez. Il y en a qui connaissent la galère. Alors aujourd'hui ça semble bizarre, mais demain, Dieu emmènera sur ton chemin des gens qui sont passés par là où tu es passé. Et quand il te dira, tu n'as aucune idée de ce que je vis, tu diras, mon petit, bas la terre, je sais d'où je viens. Et tu seras qualifié pour aider ces gens. Parce que voyez-vous, Dieu a créé chaque être humain, je dis bien chaque être humain, pour être la solution à un problème, pour être la réponse à une question. Tu ne peux pas apporter de solution tant que tu ne connais pas toi-même la solution. Que quelqu'un dise Amen. Et vous comprenez? Alors, quand vous mûrissez en perspective ou en compréhension, ça veut dire que vous cessez de blâmer, d'accuser les gens autour de vous pour les galères par lesquelles vous êtes passés, mais vous commencez simplement à dire merci. Il y a des gens qui m'ont rejeté, gloire à Dieu, ça m'a poussé dans les bras de Dieu. Il y a des gens qui t'ont sali, c'est bon, ça t'a permis de voir encore si tu avais encore un peu la crainte des critiques. Parce que tu ne peux aller nulle part dans la vie si tu as peur des critiques. Si tu es encore paralysé par les critiques, mon ami, laisse-moi te dire, Dieu va te pousser à mûrir. Et je vous ai dit la semaine dernière, le verset de référence, peux le mettre bien s'il te plaît, Luc chapitre 13, le verset de référence que nous avons lu, lorsque Dieu veut faire sortir le fruit de nous, il met le fumier. Lorsque tu ne portes pas de fruit tout seul, parce que vous savez, au début, je pense qu'il ne met pas beaucoup de fumier, parce qu'au début, il espère que tu vas pousser quand même tout seul. Mais lorsque, bon, il met quand même un peu, mais lorsque vous voyez, lorsque le fruit ne sort toujours pas au bout d'un certain temps, alors Jésus dit au Père, il intercède pour toi et pour moi, et il dit, ah, laisse encore quelques instants, laisse encore un an supplémentaire, je vais y mettre du fumier. C'est-à-dire, je vais mettre quelque chose qui sont des choses qui ne sont pas bonnes. Je vais y mettre encore un peu plus d'expériences désagréables. Et la plupart d'entre nous, quand nous passons, lorsque nous sentons que Dieu est en train de rajouter des expériences désagréables, au lieu de dire, Seigneur, maintenant je m'abandonne entre tes mains, nous résistons, nous nous endurcissons, ce qui fait que ça devient encore plus dur. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont rétrogradé. Ils ont dit, Dieu, toi et moi, c'est terminé. Oublie-moi. Mais comme je t'ai toujours dit, mon frère, ma soeur, si tu prends une brique et que tu la lances à la verticale vers Dieu, au ciel, et que tu ne bouges pas, dès qu'elle suit une trajectoire parfaitement verticale, tu seras enterré dans le sol. Et de toutes les manières, si tu ne veux pas adorer Dieu, il a dit, même les pierres, là, les pierres vont le louer, vont l'adorer. Que quelqu'un dise Amen. Les pierres vont le louer. Vous savez, la Bible dit que la création tout entière raconte la gloire de l'Éternel. Quand vous entendez les oiseaux chanter le matin, là, ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de dire, Seigneur, merci pour la nourriture que tu as pourvue pour nous. Il n'y a que l'homme, l'être humain, qui est doté d'une conscience, qui est esprit, donc à l'image de Dieu, à lui, Dieu a donné la faculté de pouvoir se rebeller, pouvoir accepter, refuser ou choisir de l'aimer ou de ne pas l'aimer. L'homme a le pouvoir de choisir. Que quelqu'un dise Amen. Mais sinon, rassurez-vous, toute la création que vous voyez autour de vous, même les serpents, je ne sais pas comment il fait. Mais, serpent, je ne sais pas. Mais en tout cas, toute la création raconte la gloire de l'Éternel. Les animaux, vous les entendez le matin, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il est en train de, quand tu le vois, surtout quand tu vois le papillon voler là, il est majestueux, il déploie ses ailes. Mais il est en train de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a des ailes pour voler. Donc si toi tu dis, aujourd'hui, je ferme ma bouche, je ne te louerai pas parce que tu m'énerves, Seigneur. Tu entends seulement un oiseau à côté de toi qui fait, pium pum 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 pium pum 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 pum. Alléluia. Ça veut dire que si tu ne loues pas Dieu, tu es en retard. Toute la création t'a devancé. Que quelqu'un dise Amen. Ah, c'est pour ça que moi j'ai dit, Seigneur, je te louerai. Pas par ma force, mais par ta grâce, je te bénirai tous les jours de ma vie. Dans les moments favorables ou pas. Vous avez entendu Pasteur Yves, il a dit tout à l'heure. Il est en train de louer puis il a mal au dos. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, il y en a marre de ce mal de dos. Seigneur, tu ne veux pas me guérir, tant pis pour toi. J'arrête de louer. Ou est-ce que tu dis, mal de dos, c'est pas grave. Si je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains et mon dos. Et s'il me manque le dos et les mains, alors je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque mes pieds, je le loue avec mon âme, mon cœur tout entier. Et s'il me manque l'âme, je sais que je le loue là-haut. Alléluia, glory be to God. Je le louerai tant que je vivrai. Alléluia. Alors Dieu nous appelle à mûrir en compréhension. Quand quelqu'un t'a mal parlé, quand quelqu'un t'a méprisé, arrête de dire, il a fait ça. Ah, pourquoi moi? Quelqu'un t'a mal parlé, dis gloire à Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Dis gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui est affecté par ça. C'est ton vieil homme, ta vieille nature. Ta vieille nature qui n'aime pas qu'on la déplace, qu'on la remue. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Et puis, la plupart d'entre nous, on les excuse qu'on donne. C'est, je suis une personne de principe. Alors, tu n'es pas une personne de principe. Ça, ce n'est pas une question de principe. C'est une question de vieil homme que tu ne veux pas laisser mourir. Que quelqu'un dise Amen. Alors, il faut mûrir dans le domaine de la compréhension. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu fait certaines choses. Quand je comprends le pourquoi, alors je cesse de me plaindre. Quand on me vire de mon entreprise, je comprends qu'on ne m'a pas viré. Parce que là où Dieu me met, personne ne peut me virer. Si je marche de manière agréable à Dieu, bien sûr. Parce que si on te met au travail, toi tu ne travailles pas. Tu lis la Bible toute la journée au travail. Ah, c'est les chrétiens spirituels. Il lit la Bible, il vient au boulot pour travailler et il lit la Bible. Et quand son patron lui dit, ici on ne lit pas la Bible, il dit le patron, il n'aime pas Dieu. C'est un antichrist. Non mon ami, c'est toi qui n'as pas compris. Mais si tu es sage, on ne peut pas te virer. Par contre, Dieu fait chaque chose en son temps. Et il y a des étapes dans lesquelles Dieu nous conduit. Aujourd'hui, il t'emmène à tel endroit. Et demain, brusquement, Dieu ne veut plus que tu sois à tel endroit. Parce que la plupart d'entre nous, nous aimons les zones de confort. Nous aimons là où c'est confortable, là où on est bien. Et quand Dieu dit, maintenant levez-vous, vous êtes trop longtemps resté ici. On dit, ah Seigneur, laisse-nous ici encore un peu. Alors Dieu envoie le feu et dit, allez, envoie la persécution. On va un problème là pour le bouger un peu. Parce que Dieu sait comment nous bouger. Que quelqu'un dise amen. Alors comme même si on t'a licencié, on ne t'a pas licencié. Moi, en 2002, on théoriquement m'a licencié. Mais j'étais le seul à être content d'avoir été licencié. Tout le monde était dans la dépression. Moi, j'étais très content. Parce que je savais que le temps était venu de tourner une page et d'ouvrir une nouvelle page. Que quelqu'un dise amen. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la perspective. Qu'est-ce que tu perçois? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui pose problème. C'est comment est-ce que tu le perçois. Et lorsque nous voulons ressembler à Christ, nous devons aussi grandir dans le domaine de la perception, de la compréhension, de la perspective. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on arrête d'être amer. On cesse d'être amer et on commence à bénir Dieu en tout temps. Qu'importe ce qui m'est arrivé, Seigneur, je te rends grâce. Ça fait très mal, c'est très douloureux. Je sais qu'il y a des expériences qui sont très douloureuses. Mais il n'empêche que le fait que tu sois là, ou le fait que tu entendes ce message, veut quand même dire que quelque part, Dieu t'a rapproché de lui. Donc rien que pour ça, dis gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce que je vais voir avec vous, c'est, on va étudier aujourd'hui le domaine des convictions, ou encore des valeurs. Dieu veut que nous mûrissions également dans le domaine des valeurs, ou encore des conviction, que quelqu'un dise les valeurs. J'ai reçu un coup de téléphone d'un frère que j'ai emmené au Seigneur à l'époque, il y a quelques années, il y a environ 10 ans. Et ce frère m'a appelé pour me dire qu'il est désormais, d'abord il m'envoyait tout le temps des courriers bizarres, et il m'appelle pour me dire qu'il est désormais prophète de l'Éternel, qu'il a quitté son église. Je lui demande comment ça va ta famille. Il me dit, pasteur, ne me parle pas de ma famille. Je lui dis, comment ça? Il dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, il n'y a que Dieu qui compte pour moi. Il n'y a que Dieu, là, c'est fini. Ne me parle plus de la famille. Je dis, et l'église? Ne me parle pas de l'église. Ce qui compte, c'est Dieu et prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. Je dis, mon Dieu. Je dis, mais alors... Donc, il a appelé pour m'évangéliser, en gros. Il me dit, pasteur, il faut que tu entendes la nouvelle révélation. Et je dis, mon Dieu, c'est... Alors, je suis resté au téléphone avec lui parce que quand j'ai ce genre d'histoire, je m'en sers toujours parce que ce sont des anecdotes. Vous comprenez? Donc, j'étais là, j'écoutais pour enregistrer. J'ai dit, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça c'est une nouvelle révélation qui vient d'arriver sur la terre. Alors, pour lui, plus rien n'est important. Il n'y a que Dieu. Ce qu'il oublie, c'est que Dieu se trouve à l'intérieur de ton frère et de ta soeur. Alors, il dit, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus ma famille. Pasteur, ne me parle pas de ma femme. Je dis, bon. Mais pasteur, je veux que je te dise quoi? Elle est là, elle fait à manger, ça va? Je dis, oh mon Dieu, assassin! Parce que vous voyez, ce qu'il va produire, ce frère, ce qu'il va engendrer, ce sont des enfants et une femme qui sont frustrés. Lorsqu'il quittera la terre, parce qu'il est psychologiquement instable, et il me dit qu'il aime Dieu. Lorsqu'il quittera la terre, ses enfants risquent de maudire Dieu et de rejeter Dieu à cause de leur père. Et ils diront, c'est à cause de toi que notre père nous a abandonnés. Que quelqu'un dise amen. Alors, pourquoi est-ce que ce genre de choses se produit? Ce genre de choses se produit parce que peut-être que la personne a grandi, a mûri dans le domaine de la connaissance. Peut-être qu'elle a mûri dans le domaine de la compréhension. C'est-à-dire, elle sait positiver dans les épreuves. Elle sait voir toujours que Dieu, elle sait voir les opportunités au lieu de voir les obstacles. Elle sait voir les possibilités au lieu de voir des problèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle mûrir dans la compréhension, dans la perspective. Mais, elle peut avoir grandi et mûri dans le domaine de la connaissance et de la compréhension, mais ne pas avoir mûri dans le domaine des valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle de qu'est-ce qui est important pour Dieu. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Lorsque je mûris, il faut que les valeurs de Dieu deviennent mes valeurs. Que quelqu'un dise amen. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Voyez-vous, un bébé et un adulte n'ont pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'un bébé et un adulte ne mettent pas le même mot sur ce qui est important. Que quelqu'un dise amen. Un adulte et un bébé n'ont pas la même mentalité. De la même manière, au niveau spirituel, un bébé spirituel et un adulte n'ont pas la même mentalité. Un enfant ne pense qu'à lui. Un adulte pense aux autres. Un enfant ne pense qu'à s'amuser sans se soucier du lendemain. Je ne parle pas d'enfants qui sont au pique-nique là. Parce qu'il y en a qui sont concernés par ce que je dis dans cette salle. Tu vas savoir si tu es un bébé ou si tu es un adulte, ou si tu es en train de mûrir pour devenir un adulte, en écoutant ce que je dis. Je répète, un bébé ne pense qu'à s'amuser sans se soucier du lendemain. Un adulte pense à travailler et à préparer le futur. Un enfant n'accorde pas d'importance au temps. Un adulte comprend que le temps est la plus précieuse des ressources que Dieu nous a données. Un enfant voit uniquement les conséquences à court terme de ses actes. Un adulte envisage les conséquences à long terme. Un enfant blâme toujours les autres. Vous voyez, si vous voyez ma fille, dès que tu lui fais quelque chose qu'il ne veut pas, papa, t'es pas beau. Papa, t'es pas gentil. Et dès que tu donnes, ah, papa, t'es gentil. Je dis vraiment, voilà. Toujours en train de blâmer. Toujours en train de rejeter la responsabilité de ne pas assumer. Un adulte assume la responsabilité de ses choix. Un enfant ne pense qu'à recevoir. Un adulte pense avant tout à donner. Un enfant ne pense qu'à se faire servir. Un adulte pense avant tout à servir. Alléluia. Voyez-vous, dans la vie, nous avons besoin de valeurs solides et des valeurs qui sont alignées sur les valeurs de Christ, sur les valeurs divines. Parce que, voyez-vous, les valeurs sont comme l'ancre auquel on attache le navire. Regardez, au bord, à quai, lorsque vous allez au port du Havre, par exemple, vous allez voir que les gros navires, là, on a besoin d'attacher, pourtant c'est des gros navires, mais ils sont toujours attachés à une ancre qui est située sur le rivage, sur le quai. Est-ce que vous me suivez? Et lorsqu'il y a des tempêtes, ce qui permet au bateau de ne pas se déplacer, c'est le fait qu'il soit attaché, il est ancré quelque part. Et les valeurs donnent dans nos vies un fondement. Les valeurs nous ancrent en Christ lorsque nos valeurs sont alignées avec la parole de Dieu. Alors, du coup, lorsque viennent les vents, les phénomènes de mode, lorsque nos valeurs sont en Christ, nous ne sommes pas affectés par la mode, que quelqu'un dise Amen. Lorsque nos valeurs sont en Christ, nous ne sommes pas affectés par les tempêtes de la vie ou par les problèmes de la vie. Parce que la Bible dit que Satan rôde. Et je connais des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur. Ils sont jeunes comme toi et moi, ils ont bien commencé, ils étaient zélés. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas mûri très vite dans le domaine des valeurs. Ce que Dieu dit important, ils ne considéraient pas ça comme étant important. Ce que Dieu dit vital, ils considéraient ça comme étant pas nécessaire. Et tôt ou tard, la tentation est venue. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévore. Tôt ou tard, la tentation est venue et ces gens se sont laissés emporter parce qu'il n'est pas défini quelles sont les valeurs auxquelles je veux accrocher ma vie. Que quelqu'un dise Amen. Le point de départ pour établir des bonnes valeurs, c'est d'abord le changement de mentalité. Que quelqu'un dise mentalité. Qui parmi nous a pris des résolutions en fin d'année dernière ou en début de cette année? Qui lève la main? Non, sincèrement. Qui a pris des résolutions? Ok. La plupart d'entre nous qui avons pris des résolutions, pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà jeté l'éponge. Nous avons abandonné et nous avons cessé de nous focaliser sur nos résolutions. Est-ce que vous savez pourquoi? Je sais, ne me dites pas Amen, je sais que c'est vrai. Beaucoup ont dit en début d'année, cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça, cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça, et aujourd'hui tu n'as rien fait. Ou alors tu as fait une infime partie de ce que tu avais prévu de faire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, dis seulement Amen. Bon, comme les autres disent pas Amen, donc vous n'êtes pas concernés par ce que je dis. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes trois fois saint. Alléluia. Mais la plupart d'entre nous, les résolutions n'ont pas tenu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour changer, la volonté ne suffit pas. Paul dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. La volonté est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Si il faut que ça change, il faut commencer à changer les valeurs, la mentalité. Il faut commencer à changer la mentalité. C'est ce qu'on appelle le pilotage automatique. Que quelqu'un dise pilotage automatique. Alors, je vous explique ce que c'est. Regardez. Si vous prenez une voiture et vous la... Alors, bon, dans le cas d'un avion, c'est peut-être plus approprié. Ou dans le cas d'un train. Dans le cas d'un avion. Vous pouvez très bien conduire un avion en mettant simplement le mode pilotage automatique. Si vous dites pilotage automatique, vous allez bloquer le volant vers la direction nord et l'avion ou la voiture, même le jouet, ira direction nord. Maintenant, avec votre volonté, vous pourrez toujours essayer de prendre le volant et de le tourner vous-même et la voiture ira à gauche. Est-ce que vous me suivez? Elle ira à l'ouest. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment ou un autre, vous allez être fatigué de toujours garder le volant et vous allez vouloir vous relaxer un peu. Que va-t-il se passer? Le pilotage automatique reprendra le dessus et la voiture refera route vers le nord. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que si vous voulez changer, ce n'est pas la peine de prendre les bonnes résolutions. Il faut que votre mentalité
change complètement. La mentalité, c'est le pilotage automatique. Que quelqu'un dise amen. Si ma mentalité change, tout ce que je fais va aller dans le sens même de ma mentalité. Mais si je prends des résolutions, mais que ma mentalité ne change pas, cette année, le temps là, je vais faire quelque chose d'important avec. Le problème, c'est que sa mentalité n'a pas changé. Et en fait, il va commencer première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, et puis après, les mauvaises habitudes vont se réinstaller. Alléluia. Les mauvaises habitudes vont se réinstaller. Et donc, je vais partager avec vous ce matin 12 valeurs. Je ne finirai pas les 12. Mais 12 valeurs, 12 choses que Dieu valorise. 12 points auxquels Dieu accorde une extrême importance. Si je dois mûrir, si je dois porter du fruit agréable à Dieu, alors il faut que dans ces domaines-là, je sois aligné complètement sur la pensée de Dieu. Et que ce que Dieu dit important, je le dise également important. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Que quelqu'un dise amen si vous êtes prêts. Alors, le point numéro 1, c'est que Dieu accorde une grande importance à sa famille spirituelle, c'est-à-dire à son Église. Que quelqu'un dise amen. Jean chapitre 13 au verset 34 à 35, vous l'avez sur le vidéoprojecteur, pour ceux qui peuvent regarder, il y en a qui ne peuvent pas regarder. Je vous le lis. Jean 13 verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Comme je l'ai expliqué il y a quelques semaines déjà. Il n'a pas dit à l'amour que vous avez pour les incroyants, à l'amour que vous avez pour les gens du dehors. Il a dit à l'amour que vous avez les uns pour les... Alors, vous savez, j'avoue que je me suis toujours demandé, mais pourquoi c'est seulement à l'amour que nous avons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples? Pourquoi c'est si important pour nous? Parce que vous savez, la réponse m'est venue. Et là, la réponse m'est venue. Et la réponse qui m'est venue, c'est, tu sais, c'est souvent plus facile d'aimer des gens que tu ne connais pas. Non, je vais reformuler ça autrement. C'est souvent plus facile d'aimer des gens que tu n'as pas à côtoyer tous les jours. C'est tellement plus facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est plus facile d'aimer quelqu'un que tu n'as pas à voir tous les jours, avec qui tu n'habites pas, avec qui tu n'es pas dans la même maison, dans la même famille. Il y en a, ils aiment les autres familles. Oh, cette famille, il y en a, ils aiment la famille de Johnny Hallyday. Mais va voir si Johnny Hallyday, avec sa maman, son papa, ses frères, ses soeurs, va voir s'ils s'entendent. C'est la guerre à l'intérieur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez trouvé des familles où il y a l'unité parfaite entre les frères et les soeurs. Oh là là, quelle grâce. Ça, c'est chez nous, ça. Que quelqu'un dise, mais c'est parce que la plupart d'entre nous ont été transformés par le Seigneur dans notre mentalité. Alors, c'est plus facile d'aimer des gens qu'on ne connaît pas. C'est plus facile d'aimer des gens qu'on voit de loin. Mais c'est plus difficile d'aimer des gens avec qui on est tous les jours ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus de blessures, de conflits, de frustrations. C'est là qu'il y a le plus de déceptions, de trahisons. C'est là qu'il y a le plus simplement de désillusions. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là que Dieu dit, aime ton frère, aime ta sœur. Tu ne supportes pas sa manière d'être. Et en plus, vous êtes dans le même groupe. La même famille, parce que tu le veuilles ou pas, la Bible dit nous sommes une la même famille. Que quelqu'un dise amen. Et cette famille est plus importante que la famille humaine, puisque cette famille va durer pour l'éternité. On ne pourra pas se voir au ciel, et puis tu me vois au ciel, et puis tu fais. Au ciel, si tu fais ça, Dieu dit, on y ouvre, sortez-le. En enfer. Chez moi, c'est l'amour qui prévaut. Que quelqu'un dise amen. Donc tu comprends, tu n'as pas le choix. On est obligé, toi et moi, de s'entendre. Si on est la même famille spirituelle, c'est-à-dire si tu as ICC, ce n'est pas une question de titre de pasteur. Je suis obligé de m'entendre avec toi. Il y a des choses que tu ne supporteras pas en moi, il y a des choses que je ne supporterai pas en toi, mais on est obligé de s'aimer, de s'accepter comme on est et de bénir Dieu pour ce que nous sommes, toi et moi. Que quelqu'un dise amen encore. Tu n'as pas le choix. Si tu n'aimes pas mon nez, ce n'est pas grave. Je sais, j'aime prendre l'exemple du nez. Je ne sais pas pourquoi, mais ça cache sûrement un secret, une révélation. Ça. La vérité, c'est que Vous ne savez pas à quel point vous aimez les autres tant que cet amour n'a pas été éprouvé. Si tu n'as pas l'occasion de vivre dans une famille spirituelle, si tu n'as pas l'occasion de vivre dans une famille spirituelle, d'appartenir à une église locale, mon frère, tu n'as aucune occasion d'expérimenter ce verset qui dit « Aimez-vous les uns et les autres ». Alors c'est pour ça que beaucoup de gens, pour ne pas être blessés, pour ne pas souffrir de nouveau comme hier, où on a abusé, où on m'a trahi, où on m'a déçu, alors je préfère rester chez moi, ou alors je n'ai pas d'église fixe, je vais, dès que le culte est fini, je repars à la maison, ou alors je vais d'église en église. Pourquoi? Parce que je préfère fuir les blessures qui viennent de la communion fraternelle. Parce que dans ma famille, j'ai été blessé. Et si je rentre dans une nouvelle famille, je risque d'être blessé. Non. Dieu dit, aimez-vous les uns et les autres. Parce que pour que l'amour qui est en toi puisse jaillir, la Bible dit que le faire aiguise le faire. Au travers des relations avec les autres, tu vas apprendre à grandir. Alléluia. Ah oui, il y aura des frictions. C'est pour ça que la Bible a plus de 60 fois. Il y a plus de 60 obligations, engagements réciproques dans lesquels il est écrit les uns et les autres. Plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. Rien que dans le Nouveau Testament, plus de 60 fois. Pardonnez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Supportez-vous les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres. Plein. 60 fois. Nous le verrons pendant les cours sur la maturité. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu dit que sa famille est importante. Alors, si tu veux faire preuve de maturité, comprends maintenant que l'église, c'est important pour Dieu. Arrête de salir, arrête de critiquer l'église. Arrête d'injurier l'église. Arrête d'injurier un frère ou une sœur qui va à l'église. Parce que quand tu fais ça, tu es en train d'injurier l'époux. C'est-à-dire que Christ, c'est l'époux. Tu es en train de dire à Christ, ta femme, elle est moche comme un poux, je ne l'aime pas. C'est toi qui vas taper. Tu dis ça, tu es en train de dire, j'aime bien ta tête, mais ton corps est moche. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Enfin, pas à moi en tout cas. Enfin, si tu peux, mais bon. Amen. Dieu accorde beaucoup d'importance à sa famille. Deuxième point. Dieu accorde beaucoup d'importance à l'éducation de nos enfants. C'est important. Alors, vous voyez, le pasteur dont je parlais tout à l'heure, enfin, le pasteur, ce n'est même pas un pasteur, le frère devenu autoproclamé prophète dont je parlais tout à l'heure, n'a pas compris que Dieu accorde une extrême importance aux enfants. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13 au verset 22 que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Et la Bible dit dans 1 Timothée 5 verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Mon frère, ma sœur, si tu es ici et que tu as des enfants, Dieu attend de toi que tu t'occupes de tes enfants. Si tes enfants sont à l'autre bout du monde et que toi tu es ici et tu te la coules douce, Dieu attend de toi que tu t'occupes de tes enfants. Parce que le concept de père, les enfants ne le comprennent que lorsqu'ils le comparent à leur père humain, biologique. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous avons de sérieux challenges. Beaucoup de gens, je connais, ont du mal à prier, ont du mal à dire simplement, Jésus a dit quand vous priez, dites notre père qui est dans les cieux. Pour beaucoup c'est difficile. Pourquoi? Parce que le mot père, et le mot père, on le comprend d'abord en pensant à son père. Et quand son père n'a pas été là, alors on ne sait plus du tout ce que veut dire père. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ma prière, et ce que Dieu te demande, c'est de guérir, de te relever et d'être un exemple de père. Si tu es un homme, et d'être un exemple de mère si tu es une femme. Que quelqu'un dise Amen. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Dieu nous les confie afin que nous soyons pour eux des modèles de père. Lorsque quelqu'un a eu un bon père, lorsqu'un enfant, une femme ou un homme a eu un père qui était un modèle, vous allez voir que cette personne n'a pas de problème pour croire en Dieu. Elle va se faire un plaisir de dire « Notre Père, Abba Père ». Ça devient simple, parce que le modèle qu'on a du Père, c'est un modèle de quelqu'un qui a pris soin de nous, qui a pourvu pour nous, qui nous a protégés, qui nous a développés, qui nous a transmis confiance, amour, réconfort, acceptation, encouragement, motivation. C'est quelqu'un qui est un vrai Père. Et Dieu dit que dans le domaine des valeurs, grandir en maturité veut dire grandir dans le domaine des convictions. Et tu dois avoir la conviction que la famille, c'est important. Et je tiens à vous dire que la famille existait avant l'église. Et qu'en fait, la famille, c'était la première église. Au commencement, il y avait Adam et Ève et puis leurs enfants. C'était la première assemblée. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est pour ça que je dis au pasteur, lorsque tu t'occupes uniquement de l'église et que tu négliges ta famille, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Je continue, j'essaie d'aller vite. Le troisième domaine dans lequel nous devons mûrir, Dieu accorde de l'importance à sa parole et à nos propres paroles. Dieu accorde de l'importance à sa parole. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors là, permettez-moi de vous dire une chose. Suivez-moi. Suivez-moi. Frères, sœurs, faisons très attention. Il y en a parmi nous, je vais vous expliquer. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés. Le mot confesser, homologeo en grec, ça veut dire dire la même chose que. Confesser veut dire répéter la même chose que. Voilà notre problème. Dieu accorde de l'importance à sa parole. Lorsque Dieu dit A, que dis-tu? Lorsque Dieu dit A, toi tu dis A prime. A prime, ce n'est pas A. Lorsque Dieu dit A, il faut que tu dises A. Confesser nos péchés, ça veut dire, Dieu dit c'est un péché, toi tu dis c'est une erreur. Dieu dit demande pardon, toi tu dis je suis désolé. Ce n'est pas la même chose. Ça c'est le langage d'aujourd'hui ça. Parce qu'on n'aime pas dire pardon. Oh excuse-moi. Excuse-moi, ce n'est pas pardon. Pardon, c'est pardon. Excuse-moi, c'est excuse-moi. Que quelqu'un dise amen. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire si nous reconnaissons, si nous admettons que lorsque Dieu dit péché, nous reconnaissons que c'est un péché, alors Dieu est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. Et le sang de Jésus peut nous nettoyer. Mais si lorsque Dieu dit péché, toi tu ne dis pas péché, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu n'as pas compris que pour Dieu, sa parole est importante. Que quelqu'un dise amen. Si tu veux mûrir, apprends à confesser, c'est-à-dire à être d'accord, aligné sur ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, quand quelqu'un te dit tu es faible, ne dis pas je suis faible. Que dit la Bible? Que le faible dise je suis, dis ce que Dieu dit. Si on te dit que tu n'es pas capable d'y arriver, tu dis je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand tu dis ça, tu es en train de confesser, c'est-à-dire tu es en train de t'aligner sur ce que Dieu dit. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si tu es trop avancé en âge, et qu'on t'a dit que c'est trop tard pour te marier, que tes parents avaient raison de dire que tu es un nul, que tu es une nulle, que tu ne vas jamais échouer, que tu es un bon à rien, dis-leur que la Bible dit, la fin d'une chose est mieux que son commencement. Donc quand on se moque de toi, tu leur dis, attends, Dieu n'a pas encore fini d'écrire la fin de l'histoire, tu te moques déjà de moi, mais attends d'abord la suite. Attends la suite. Comment? Mais oui, attends. Dis à ton voisin, attends. Mais vous savez, il y a des gens qui manquent de discernement. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est l'hypermétropie ou la myopie, ils ne savent pas voir le potentiel des gens lorsqu'il est caché. Parce que simplement, il est caché. Alors, il voit que tu as échoué, il voit que tu as eu des revers, il voit qu'il y a des choses qui ont mal marché, et puis il commence à dire, tu es un incapable. Mais laisse-le, c'est son opinion. Moi, c'est comme ça, moi, je dis, apparemment, tu ne vois pas bien, toi. Tu ne vois pas la grandeur manifestée en moi encore. Mais il y a quelque chose à l'intérieur, tu n'as pas encore vu ça, c'est ton problème. Mets des lunettes au plus correct et puis tu verras un peu mieux. Que quelqu'un dise amen. Parce que si tu vois mieux, tu seras capable d'appeler un lâche comme Gédéon. Tu seras capable de l'appeler vaillant héros. Ça, c'est quand tu commences à voir avec les yeux de Dieu. Et que tu commences à confesser ce que Dieu confesse. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas ce qu'on a dit. Vous savez, je vais vous dire, ce qui énerve le plus Dieu, c'est pas que les gens t'injurient. Ce qui énerve Dieu, c'est que toi-même, tu confesses sur ta vie des choses négatives tout le temps. Et le pire, c'est que tu te plains tout le temps. Oh, mais ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Oh, ma vie est fichue. Mais mon frère, la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Il y a des gens, c'est pas Satan qui tape. Hein. C'est Dieu lui-même qui dit. Écoute, parce que chaque fois que tu n'es pas aligné sur ce que dit, en fait, Dieu essaie de construire, mais toi, tu es en train de détruire ce qu'il essaie de faire. Dieu essaie de te construire par sa parole. Tu viens un dimanche à l'église, tu entends des messages qui te challenge, qui te boostent, qui te motivent. Et dès que tu sors de là, oh, ça va pas. Mais tu sais, je te dis ce qui se passe. Dieu dit à Satan, non, là, laisse tomber. Je vais m'occuper moi-même de cette personne. Parce que si quelqu'un construit et que tu viens tout le temps détruire ce qui est construit, je vais commencer à attaquer celui qui détruit. Que quelqu'un dise amen. Ah, il y a des gens comme ça, Dieu vient vers lui et dit, écoute, je vais te donner une bonne baffe, une bonne taloche. C'est pas possible. J'essaie de construire par ma parole, toi tu es tout le temps, ah, ça va pas. Oh ma vie, oh Seigneur, je suis trop âgé, je suis comme si, je n'ai pas réussi. Mais qui t'a dit que tu n'as pas réussi? Il y a 2 mois, l'OM était 2e du classement. L'OM, c'est l'Olympique de Marseille, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des femmes qui ne savent pas que l'OM, c'est l'Olympique de Marseille. Bon, si les hommes le savent, si les hommes... Alléluia, gloire à Dieu, pardon, je retire ce que j'ai dit. Ils étaient deuxième du classement. Aujourd'hui, ils sont qualifiés, même pas pour la Coupe d'Europe. Ils ne sont même pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ils étaient deuxième il y a deux mois, aujourd'hui, ils sont loin. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la fin de la course, mon frère, ma sœur. Qu'importe où je suis aujourd'hui, arrête de t'apitoyer, arrête de croire que ta vie est fichue. Arrête de croire que c'est trop tard. Tu fatigues Dieu. Tu fatigues Dieu. Et c'est à cause de leur murmure que certaines personnes restent longtemps dans le désert. C'est pas Satan qui attaque, c'est elle-même qui s'attaque toute seule. Tu essaies de construire, toi tu viens de détruire. Dieu dit, il y en a marre. J'essaie de construire ta mentalité, tu viens tout le temps saboter ce que je fais. Alors Dieu dit, allez, je vais mettre encore, allez, mettez du fumier à l'intérieur, mettez du fumier. Ça sent mauvais, mettez du fumier. Elle va finir par porter du fumier. Allez, mettez le fumier. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini pour moi. Dis à ton voisin, j'ai encore de l'espérance. Ça changera. Arrêtons d'être négatifs. Confessons ce que Dieu dit. Quand Dieu dit c'est bon, alors je dis c'est bon. Quand Dieu dit tu peux, alors tu peux. Quand Dieu dit sois guéri, alors dis je suis guéri. Arrête de dire, Dieu dit je suis guéri, mais j'ai encore mal. Mais tu es en train de détruire ce qu'il essaie de faire. Dieu dit tu es guéri, je suis guéri. Je sens la douleur, je suis guéri. Ah, mais t'es fou. Non, je ne suis pas fou, je suis guéri. Oh, vous savez, je l'ai expérimenté, je vous assure que ça marche. Que quelqu'un dise amen. Qui l'a expérimenté déjà ça? La puissance de la proclamation. Les amis, la parole a un pouvoir créateur. La parole a un pouvoir. La Bible dit, c'est du fruit de ses lèvres que l'homme se rassasie. Par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, là, fais attention. Arrête de dire ce que tu sens, dis ce que tu sais. Arrête de confesser ce que tu vois, dis ce que tu veux. Que quelqu'un dise amen. Dieu accorde une importance extrême à sa parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il a dit, fils de l'homme, je mets mes paroles dans ta bouche. Moi, je mets mes paroles dans ta bouche. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est ouvre la bouche, proclame. Et si tu ne vois pas se manifester, continue de proclamer. Parce que ce que tu continues de confesser, de proclamer, tu ne cesses pas de l'amplifier. Et plus tu l'amplifies, et plus ça va se matérialiser. Que quelqu'un dise amen. Arrêtons les paroles négatives. Nous devons mûrir. Arrête de confesser que ça ne va pas. Amen. Quatrième point. Dieu accorde une extrême importance au fait d'honorer les parents physiques et les parents spirituels. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Qu'importe ce qu'ils ont fait, la Bible dit honore-les. Donne-leur honneur. Je l'ai dit une fois, je le redis encore aujourd'hui. Honore ton père et ta mère. C'est un commandement. Que quelqu'un dise amen. Et la Bible dit obéissez. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La Bible dit, honorez les autorités. Honorez, dis à ton voisin, honore les autorités. Ça veut dire respecte, accorde de l'importance, respecte. Dieu a frappé Marie de lèpre parce qu'elle a osé parler contre son petit frère. Écoutez-moi. Dieu a frappé Marie parce qu'elle a osé parler contre son petit frère. C'est elle la grande sœur. C'est elle l'aînée de la famille. Mais elle n'a pas su enlever la casquette. Elle n'a pas su sortir de la famille humaine. Et elle n'a pas su voir que dans la famille spirituelle, Dieu avait établi Moïse au-dessus d'elle. Il était plus petit qu'elle. Mais dans la famille spirituelle, Dieu avait établi Moïse au-dessus d'elle. Et chaque fois que tu méprise l'autorité de quelqu'un que Dieu a établi, tu es en train de mépriser Dieu lui-même. Regardez. Je ne vais pas le lire. Dans Nombres chapitre 16, lisez à la maison l'histoire de Corée, Dathan et Abiram, ainsi que leur famille. Ils ont été enterrés vivants dans le séjour des morts parce qu'ils ont méprisé l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse. Ils ont rassemblé 250 anciens de l'église de l'époque. 250 anciens de l'église qui étaient très influents parmi le peuple et ils ont constitué le détachement du premier bataillon de rébellion. Et ils sont allés marcher contre Moïse. En accusant Moïse, en disant à Moïse, d'abord, en fait, ils ont simplement voulu faire un coup d'état spirituel. Ils ont voulu renverser la tête. Et en plus, ils ont accusé Moïse et Aaron d'avoir trompé le peuple. Vous savez, Dieu, écoutez-moi, Dieu, même quand tu as raison, Dieu ne supporte pas qu'on manque de respect aux autorités établies. Que quelqu'un dise Amen. Parce qu'il accorde beaucoup d'importance à l'autorité. Et si Dieu dit que c'est important, mon frère, ma soeur, sache que c'est important. Que quelqu'un dise Amen. Alors voyez, c'est vrai qu'il y a des cas où les autorités ne sont pas bien, c'est vrai. Il y a des cas où les autorités ne sont pas des exemples, c'est très vrai. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Allez voir les dirigeants, parlez avec eux et exprimez vos frustrations. Exprimez vos craintes, exprimez vos doutes, exprimez vos appréhensions, mais ne murmurez pas. Que quelqu'un dise Amen. Ne constituez pas le premier bataillon de la rébellion. Qu'est-ce que tu vois ce que fait le pasteur là? Tu vois les dirigeants? Tu vois ce qu'ils font? Ah non, moi non. Non, tu vois. Mon frère, Dieu va te juger. Quand c'est comme ça, va voir. Parle avec la personne. S'il t'écoute, c'est bien. S'il reconnaît, c'est bon. S'il te rejette et qu'il n'écoute pas ce que tu dis, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Mais ne reste pas pour créer la zizanie. Que quelqu'un dise Amen. Je vous assure, ce que je vous dis, ce sont des principes que nous devons comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits. Beaucoup de gens qui sont frappés par Dieu. Parce que même quand ils ont raison, ils n'ont pas respecté le protocole sur la forme. Même quand le fond était vrai. Dieu accorde de l'importance aux autorités. Et Dieu veut qu'on respecte, qu'on honore nos parents. Je dois honorer mon père, je dois honorer ma mère. Qu'importe ce qu'elle a fait, je dois l'honorer. Ça veut pas dire, je dois dire, maman, je t'aime. C'est pas ça que Dieu te dit. Dieu te dit, respecte cette personne. Celle qui t'a engendré, respecte-la. Alléluia. Et de même que tu respectes tes parents spirituels, respecte les autorités établies dans l'église. Respecte-les. Tu vas dans une entreprise, respecte ton patron. Que quelqu'un dise Amen. Tu veux être béni, respecte. Dis à ton voisin, respecte. Cinquième point. Dieu accorde une importance extrême à la protection de ton corps. Je vais vite là-dessus. Je vais finir par le sixième point qui est le plus important aujourd'hui pour moi que je vais aborder. Vous devez comprendre une chose, mon frère, ma soeur, la Bible dit que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, « Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez Dieu dans votre corps. Ton corps ne t'appartient plus. Dieu a racheté aussi ton corps. Quand il t'a racheté, ton corps faisait partie du package. » C'était dans l'offre globale. Que quelqu'un dise Amen. Ton corps ne t'appartient, dis à ton voisin, ton corps ne t'appartient plus. Ça veut dire que tu dois le respecter. Arrête de mépriser ton corps. Arrête d'emmener ton corps. Et il y a des gens encore parmi qui m'entendent ici qui ont encore des relations illicites. Qu'on appelle la fornication. Tu n'es pas marié avec lui ou avec elle. Et tu dis non, mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à me contenir. Ton corps ne t'appartient pas. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu ne peux pas mettre dans ton corps de la drogue. Ce n'est pas pour toi. Mais c'est moi. Ce n'est pas pour toi, justement. Tu ne peux pas mettre dans ton corps la cigarette. Tu ne peux pas mettre des excès d'alcool dans ton corps. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle nourriture dans ton corps. Parce que Dieu dit, si tu détruis son temple, parce qu'il dit que ton corps, c'est son temple. Dans l'ancienne alliance, Dieu a toujours été omniprésent. Mais on le représentait dans des maisons. Mais Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est fini. Dieu dit, j'habite en toi. Donc ça veut dire, tu ne t'appartiens pas. Depuis le jour, j'ai compris ça, j'ai compris que je ne peux pas faire ce que je veux. Ton corps n'est pas, tu ne peux pas mettre n'importe quoi dedans. Toi qui fumes encore, sois libéré de la cigarette au nom de Jésus. Cannabis, joint, marijuana, tout ça là. Pourquoi croyez-vous que les maladies contagieuses, les maladies sexuellement transmissibles existent? Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Moi, je crois que Dieu ne crée pas le mal. Mais je crois qu'il y a des choses qui ont été créées par Satan pour attaquer les gens qui n'obéissent pas au principe divin. Ton corps n'est pas pour toi. Tu n'as pas créé ton corps tout seul, mon frère. C'est une enveloppe qui t'a été donnée. C'est Dieu qui te l'a donnée. Amen. Et Dieu exige que tu prennes soin de ton corps. Quand j'étais bébé spirituel, non, c'est pas ça. Dieu exige que tu prennes soin de ton corps. Amen. Et c'est parce que ton corps a été racheté par Dieu que Dieu est capable de guérir ton corps. Il est capable de donner de la vie à ton corps. Il est capable de te fortifier, de te vivifier. C'est parce que, justement, il t'a racheté. Parce qu'il ne peut pas toucher ce qu'il n'a pas racheté. Quand il dit qu'il a racheté, ça veut dire qu'il a pris pour lui. Tu ne t'appartiens pas, mon frère, ma soeur. Alors arrête de jouer avec ton corps. Arrête de croire que je peux me permettre d'aller pêcher, d'aller jouer. On va faire ça, personne ne va voir, le pasteur n'a pas vu. Dieu a vu. Dieu a vu. Et si Dieu a vu, mon frère, tu es en danger. Alors repends-toi, change ta mentalité. Change tes valeurs. Ton corps ne t'appartient pas. Et si tu es marié, ton corps appartient à ton conjoint. Que quelqu'un dise amen. Alors cesse de tourner le dos. Quand tu es fâché, arrête de tourner le dos. Tu dis, c'est mon corps, c'est pas pour toi. On a dit, on devait une seule chair, non? Si on devait une seule chair, c'est que ton corps, ça m'appartient, mon corps t'appartient. Sachez une chose, je ne vais pas vous choquer, mais sachez une chose, c'est que les personnes qui font du marchandage pour donner leur corps, ce sont des prostituées. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Dieu dit, quand tu es marié, ton corps appartient à ton conjoint. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière. Toi, tu dis, chérie, je suis en jeûne pendant 40 jours à partir d'aujourd'hui. Et ton mari te dit quoi? Quoi? 40 jours, tu me laisses là tout seul, là? Bon, toi aussi, il faut tenir, mon frère, quand même. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas tenir. Il faut tenir. Parce qu'il y a des jours, elle voyagera, elle ne sera pas là. Comment tu vas faire? Alléluia, glory be to God. Bon, il faut prévenir, comme dit le pasteur Yves. Et ce message s'adresse aux gens mariés. Toi, tu n'es pas marié, n'écoute pas, ferme les oreilles. Alléluia. Je vous en supplie, vous savez, j'ai vu, vous savez, quand on veut réussir dans le mariage, il faut apprendre à mettre les bons fondements. Quand Dieu dit ne touche pas avant le mariage, Dieu sait pourquoi il le dit. Mets dans ton foyer le fondement de la bénédiction et de la faveur. Arrête d'aller courir dans des relations sexuelles hors mariage. Ah ouais, mais c'est parce que c'est plus fort que moi. C'est pas plus fort que toi. Si tu sais qui tu es, ça peut pas être plus fort que toi. Tu es un champion. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne le penses. Beaucoup plus grand, beaucoup plus grande que tu ne le penses. Ton problème, c'est ce que tu ne connais pas. C'est ton ignorance. Le jour où ta perception change, la compréhension que tu as... C'est pour ça que Paul disait, je prie que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Afin que vous sachiez, puissiez connaître qui vous êtes, quelle est votre identité. Parce que le jour où tu sais qui tu es, mon frère, ma soeur, les vices là, ne te tiennent plus. Tu vois des gens créés à l'image de Dieu qui sont en train de se prosterner devant une plante. Parce que la cigarette, le cannabis, tout ça, c'est des plantes à la base. Hein? Cocaïne, tout ça. Ils se prosternent devant une plante. Une plante qui n'a même pas de conscience. Et puis il dit, plante, je t'adore. Plante, tu es ma source. Plante, je ne peux rien sans toi. Quel ridicule. Et Dieu voit ça. Dieu a envie de te taper toi, pas la plante. Comment qu'est-ce que j'ai créé à mon image? Je peux faire des choses comme ça? Heureusement que Dieu est patient avec nous. Que quelqu'un dise amen. Parce que des fois, je dis au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu es aussi patient, mais il y a des cas pour moi qui méritaient la lapidation immédiate. Mais gloire à ton nom, parce que toi, tu es Dieu, et puis voilà. Tu es parfait en toutes choses. Le sixième point par lequel je vais finir, c'est le point que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, très très important pour moi, pendant que Dieu me mettait ça à cœur. C'est qu'il y a une chose qui est importante pour Dieu, et c'est sa volonté. La volonté de Dieu est très importante pour Dieu. Il a dit quand vous priez, dans votre prière, dites toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu accorde beaucoup d'importance à sa volonté. Ce qu'il désire, lui, d'abord, avant et toute chose. Tu veux être guéri. Dieu te dit, pourquoi est-ce que je devrais te guérir? Quelqu'un m'a appelé il y a quelques jours pour me dire, pasteur, prie pour moi. Toi, tu es pasteur, prie pour moi parce que je souffre, j'ai mal au dos, ça fait mal. J'ai dit, mais dis-moi un peu, frère, très honnêtement. Parce que vous savez, aujourd'hui, les marchands de superstitions et de miracles vous promet toutes sortes de formules rapides, accélérées, instantanées pour accéder à ce que vous voulez. Alors, si je te donne une petite bouteille d'huile, tu prends ça, tu mets sur ton corps, tu mets machin, pouf, tu achètes ça, évidemment, il faut acheter 100 euros minimum de la bouteille d'huile sur 1000 personnes, tu comprends que ça fait 100 000 euros pour le gars. Avec ça, ton miracle est arrivé. C'est du n'importe quoi, mon frère, ma soeur. C'est du n'importe quoi. Pourquoi est-ce que Dieu va te guérir? Quel intérêt est-ce qu'il y trouve? Voilà. Il y en a parmi nous, nous attendons des choses de Dieu. Il y en a qui sont ici aujourd'hui et qui espèrent de la part de Dieu un miracle dans un domaine particulier. Qui est cette personne? Qui lève la main? C'est tout le monde. Nous attendons tous de Dieu quelque chose de particulier. Et Dieu est d'accord avec ça. Dieu est sensible à ce besoin que tu as. Mais il a mis une condition. Il dit, cherche d'abord mon règne à moi. Et ma justice, ça veut dire ce qui m'est agréable. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Je répète, Dieu te dit, cherche d'abord à ce que moi, je règne en toi. Cherche à faire ce que moi, j'approuve. Et après, tout le reste, tu l'auras. Mais il y a beaucoup d'entre nous, il y a quelqu'un ici qui veut être guéri. Il vient à l'église, il entend la parole, il veut s'accrocher au Seigneur. Mais en fait, il a une arrière-pensée. Si seulement je peux être guéri. Mais la question, pourquoi est-ce que tu vas te guérir? Tu vas faire quoi si tu es guéri? Est-ce que tu sers Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es un instrument que Dieu peut utiliser aujourd'hui? Moi, quand je ne me sens pas bien, vous savez, je dis au Seigneur, regarde, Seigneur, ce n'est pas compliqué. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu dois m'utiliser, tu as commencé à m'utiliser, tu dois le faire. Si je ne suis pas guéri, je ne peux pas le faire. Donc fais-le, pas à cause de moi, mais parce qu'il faut que je fasse ce que tu m'as demandé de faire. Mais toi, tu veux que tu te guérisses, pourquoi? Le challenge de beaucoup d'entre nous, Dieu dit, cherche d'abord son royaume et sa justice. Dieu dit, je suis la réponse et la solution dont tu as besoin. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous recherchons un fruit qui se trouve sur l'arbre, au lieu de vouloir carrément acquérir tout le terrain sur lequel se trouve l'arbre. Nous cherchons la ressource, mais nous ne cherchons pas la source. Quelqu'un ici pense qu'il cherche de l'argent. En réalité, c'est faux. Tu cherches le bonheur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais tu penses que tu cherches l'argent. Alors tu dis, c'est donne-moi l'argent. Mais le problème, c'est que même si Dieu te donne l'argent, tu n'auras pas le bonheur. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas, parce qu'il sait que ce n'est pas la réponse dont tu as besoin. Mais toi, tu crois que la réponse dont tu as besoin, c'est ça. Ce n'est pas l'argent, mon frère. Tu cherches le bonheur. Que quelqu'un dise amen. Il y a quelqu'un ici qui cherche un conjoint. Tu recherches un mari, tu recherches une femme. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu recherches. En réalité, tu recherches une intimité et une complémentarité à partager avec une personne de sexe opposé au tien. J'ai dit bien de sexe opposé. Je dis encore de sexe opposé. Alléluia. Il y a des gens qui recherchent un travail. Mais en fait, ils ne recherchent pas un travail. Ils recherchent un moyen de libérer leur potentiel. Parce que, il y en a, Dieu a donné le travail, mais tu es toujours frustré. Tu soupires, tu gémis. Dieu voit que tu n'es pas heureuse, mais tu dis, Seigneur, donne-moi le travail. Mais le travail n'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est que Dieu te donne quelque chose qui permet de déployer ton potentiel. Parce que là, tu es dans la joie. Alors Dieu dit, cherche d'abord mon règne. Il y a quelqu'un qui cherche un diplôme dans un domaine qui ne correspond même pas à ses aspirations. Mais en réalité, Dieu sait que tu cherches à te sentir approuvé et accepté par tes parents ou par tes amis. En fait, ce que tu recherches, c'est de l'approbation. Et toi, tu te dis, je veux ce diplôme. Mais Dieu sait que si tu as ce diplôme, ça ne te rendra pas heureux. Ça ne te rendra pas plus épanoui. Ça ne te rendra pas plus accompli. Dieu sait ce qu'il te faut. Dis à ton voisin, Dieu sait ce qu'il te faut. Il y a quelqu'un dans cette salle qui fait du forcing dans un domaine déterminé dans sa vie. Il essaie d'avoir quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais un domaine dans lequel tu forces avec tes propres forces pour avoir quelque chose. Et parce que tu dois y arriver, tu veux y arriver, en fait tu veux y arriver parce que tu veux prouver que toi aussi tu peux réussir. Tu veux faire taire les mauvaises langues. Tu veux leur prouver que toi tu n'es pas un échec. Tu veux leur prouver que toi tu peux réussir aussi. Alors tu fais beaucoup de choses, tu enfonces des portes qui sont fermées, tu essaies de les défoncer. Mais Dieu sait qu'en réalité, ce que tu cherches, c'est l'acceptation. Parce que Dieu sait que ton combat, c'est que tu te sens rejeté. Tu as besoin de prouver. Le jour où tu as besoin de prouver qui quoi que ce soit à quelqu'un, ça veut dire que tu as un problème avec le rejet. Mais Dieu te dit, en réalité, ton problème, ce n'est pas ça. Ton problème, c'est que tu as juste besoin de te sentir accepté. Or, si tu as besoin de te sentir accepté, viens à moi. Parce que moi, je te donne l'acceptation. Je t'ai accepté. Là où on t'a rejeté, je t'accepte. Que quelqu'un dise Amen. Il y a quelqu'un qui cherche la guérison de manière désespérée. Guérison d'une maladie chronique ou incurable. Mais en réalité, ce que tu cherches, c'est pas ça. Ce que tu recherches, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la force de pouvoir accomplir tout ce que tu as envie d'entreprendre. Et tu penses que la clé, c'est la force. La guérison, non. Parce que la force ne vient pas des muscles. La force ne vient pas parce que je suis en bonne santé. La force vient parce que j'ai une vision et une passion dans la vie. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Alors tu vois, tu dis au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Mais Dieu dit non. Je peux te guérir, mais ce n'est pas ça ton besoin. Ton besoin, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est la force. Et cette force qui vient de la passion, de la vision, de la focalisation. Parce que vois-tu, tu peux être souffrant dans ton corps, mais accomplir de grandes choses avec Dieu. Il a dit à Paul qui avait une naissance dans la chair, Paul, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin que je te guérisse. Parce que tu vas réussir à accomplir tout ce que tu as à accomplir sur la terre avec la santé que je t'ai donnée. Que quelqu'un dise Amen. Avec la santé que tu as, tu pourras le faire. Parce que ma force, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et lorsque tu as l'air faible, c'est alors que tu es fort. Parce que c'est moi qui te remplis. Alors Dieu dit, ma volonté, c'est ça qui compte. Ma volonté fait toute la différence. Il y a des choses que nous recherchons parce que nous croyons qu'elles vont combler nos cœurs. Et Dieu sait qu'elles ne sont pas la réponse et Dieu ne nous les donne pas. Et quand il ne les donne pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme les petits garçons, nous sommes frustrés et nous disons, à partir d'aujourd'hui, je ne te parle plus. Dieu dit, laisse-moi d'abord régner en toi. Parce que si je règne en toi, ma paix va régner en toi. Si je règne en toi, ma joie va régner en toi. Si je règne en toi, mon amour va régner en toi. Si je règne en toi, ma sagesse va régner en toi. Tu as besoin de sagesse. Parmi nous, certains cherchent l'argent, mais en fait, Dieu sait que ce n'est pas l'argent qu'il te faut, c'est la sagesse. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas l'argent, mon frère, c'est la sagesse. Parce que si tu as la sagesse, tu attires l'argent. Tu n'as pas la sagesse, même si l'argent vient, tu le perds. C'est la différence, je vous l'ai dit, entre les gens entre les gagnants et les perdants, c'est ça toute la différence. Il y en a qui cherchent les problèmes et puis il y en a qui solutionnent les problèmes. Il y en a qui apportent les problèmes. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Voilà mes problèmes. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Les riches solutionnent les problèmes que les pauvres ont apportés et puis après, ils revendent les solutions qu'ils ont apportées, ils les revendent encore aux pauvres et puis ils disent maintenant achetez. Il dit, ah merci, vous avez trouvé la solution. Mais oui, mais c'est lui qui te vend ça. Donc il est riche, il est encore plus riche qu'auparavant. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui sont importantes pour Dieu et que Dieu nous demande de valoriser. Dieu nous demande de considérer comme étant important. Lorsque tu pries, si tu veux t'assurer que ta prière soit exaucée, soit entendue par Dieu, prie selon la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. Le plus important, c'est la volonté de Dieu. Alors Seigneur, je te demanderai pas ma volonté maintenant. Il y a quelqu'un ici qui est concerné par ce message parce qu'elle essaie de faire un forcing auprès du Seigneur. Seigneur, c'est lui, pas un autre, c'est lui que tu dois me donner. Tu dis, écoute, demande-moi ma volonté. Parce que Dieu voit le futur. Dieu sait ce qu'il te faut. Fais-moi confiance. Si tu me fais confiance, c'est une marque de foi. Si tu me fais confiance, tu ne seras jamais ébranlé. Tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais confuse. Mais qu'est-ce que tu veux? Ta volonté ou ma volonté? Moi, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je ne prie plus pour demander à Dieu de bénir ce que je fais. Je prie maintenant pour demander à Dieu de me faire faire ce que lui bénit. Parce que lorsque tu fais ce que Dieu a déjà béni, le succès est assuré. Lorsque tu fais ce que Dieu n'a pas béni, l'échec est assuré. Beaucoup d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, nous combattons ce qu'on appelle le mauvais combat. Il y en a qui combattent le mauvais. Paul dit combat le bon combat de la foi. Quelqu'un ici combat le mauvais combat. C'est un combat dans lequel Dieu t'a pas dit d'aller. Dans ce combat, tu vas lutter, tu vas transpirer, tu vas te battre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le combat que tu veux que tu combattes. Et je finirai par ces paroles de Massa Otabil qui a dit une fois que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit, dans la vie, battez-vous pour les batailles Bagarrez-vous pour les batailles où il y a des récompenses. Lorsque quelqu'un t'a injurié, lorsque quelqu'un t'a fait une queue de poisson, lorsque quelqu'un t'a méprisé et que tu te mets en colère et que tu risques de te battre, ce n'est pas une bataille dans laquelle il y aura une récompense. Les batailles dans lesquelles il y a des récompenses, ce sont les batailles que Dieu dit de combattre. Pour prendre ton héritage, pour prendre le pays en possession. Que quelqu'un dise Amen. Alors prions, apprenons à mûrir dans le domaine des valeurs. Il y a des choses qui sont importantes pour Dieu. Je finirai la semaine prochaine en vous parlant des autres valeurs qui sont importantes aux yeux de Dieu. La foi, la générosité, la prière, l'obéissance, l'attitude, le temps et le temps. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais comprenons une chose, Dieu veut que nous mûrissions dans le domaine des valeurs. C'est ça le fondement de notre vie. Et si nous arrivons à comprendre que ce qui est important pour Dieu doit devenir important pour nous, alors Dieu nous bénira, alors nous porterons du fruit. Et lorsque nous porterons du fruit, lorsque les gens verront ce fruit manifesté dans nos vies, les gens diront gloire à Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Inclinons la tête et prions. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans quel domaine tu te sens concerné. Peut-être est-ce dans le domaine de ton corps. Peut-être est-ce dans le domaine de la volonté de Dieu. Peut-être est-ce ta vision, ta perception de la famille. Peut-être est-ce ta perception des enfants. Peut-être est-ce ta perception des parents, physiques ou spirituels. Peut-être est-ce ta perception de la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a un ajustement que tu dois faire. Si tu veux porter du fruit agréable à Dieu, tu dois t'aligner sur ce que Dieu dit être important. Si tu t'alignes sur les valeurs de Dieu, alors le fondement de ta vie sera solide. Alors tu ressembleras à cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, la pluie est tombée, les tempêtes ont soufflé. Mais la maison n'a jamais été ébranlée parce qu'elle était appuyée, bâtie sur le roc. La tentation viendra. Mais si tes valeurs sont alignées sur les valeurs divines, sur les valeurs bibliques, sur les valeurs de Dieu, si tes valeurs sont alignées sur celles de Christ, alors mon frère, la tentation viendra de manière certaine, mais tu ne seras pas ébranlé. Je ne serai pas ébranlé par la grâce de Dieu parce que nous nous serons attachés et enracinés sur le rocher de notre salut. Élevons la voix et prions. Demandons au Seigneur de nous aider, d'illuminer notre cœur et d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous voyons simplement ce qu'il voit et que là où nous n'étions pas encore alignés sur sa parole, sur ses valeurs, que le Seigneur nous accorde la grâce de nous déplacer, de nous refocaliser sur ce que lui, il estime être important. Élevons la voix tous ensemble et prions. Prie mon frère, ma soeur, élève la voix. Alléluia, Father, we thank you. Seigneur, devant toi ce matin, nous venons, tels que nous sommes, notre Père. Tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, à la mentalité de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je prie, notre Père, que tu nous accordes la grâce de considérer comme étant important ce que tu considères comme important. Seigneur, je demande pardon pour avoir méprisé l'Église, pour avoir méprisé la communion fraternelle, pour m'être isolé dans mon coin et n'avoir pas voulu avoir de rapport avec les autres, Seigneur. N'étant ainsi pas capable de vivre cette parole qui dit « Aimez-vous les uns et les autres » parce que j'ai peur d'être blessé, j'ai peur de souffrir. Seigneur, je demande pardon pour les raisonnements qui m'ont empêché d'obéir à ta volonté. Pour tout ce qui m'a bloqué, je demande pardon, Seigneur. Ce matin, je me repens devant toi, sincèrement, Seigneur, authentiquement. Et je dis que Père, je veux revenir. M'aligner, Seigneur, maintenant décréter comme étant important ce que tu dis être important. Je considère que désormais ta parole, Seigneur, devient le fondement, l'autorité de ma vie. Ce que tu dis, je le décréterai désormais. Je cesserai d'aller à l'encontre de ce que tu dis. Je cesserai de dire l'opposé de ce que tu dis. Et désormais, par la grâce qui abonde en Jésus-Christ, Seigneur, je m'engage ce matin, Seigneur, avec la grâce qui abonde en Jésus-Christ, à confesser ce que tu confesses, à être d'accord avec toi, Seigneur. Et n'a plus dépendre, à ne plus proclamer, confesser sur ma vie ce que les parents, ce que les leaders, ce que les professeurs d'école ont dit. Qu'importe ce qu'ils ont dit, ils ont émis leur opinion, Seigneur. Mais ce n'est pas ce que tu dis. Et je cesse de m'apitoyer et de me répéter les paroles négatives qu'on m'a dites. Maintenant, je confesse les paroles positives que tu décrètes sur ma vie. Je te dis merci, Seigneur, parce que ce matin, tu m'accordes la grâce de me remettre en cause par rapport à ma volonté. Maintenant, ma prière, ce n'est plus fait. Laisse-moi faire ma volonté. Ma prière maintenant, c'est Père, que ta volonté parfaite, pas celle que tu permets, mais celle que tu agrées, Seigneur. Celle qui réjouit ton cœur. Que ce soit cette volonté qui triomphe dans ma vie, qui triomphe dans la vie de mon frère, qui triomphe dans la vie de ma sœur, qui triomphe à ICC. Seigneur, que ce soit tes desseins parfaits. Parce que tu as dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et je prie que tu accomplisses dans nos vies tes projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir certain et de l'espérance. Tes projets, Seigneur, pour nous donner les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tes projets pour nous faire réussir. Tes projets, Seigneur, pour nous faire porter du fruit. Tes projets pour faire de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Que tes projets s'accomplissent, Seigneur. Je refuse de me brader moins cher, Seigneur, et de vendre et de compromettre mon intégrité et ma foi, Seigneur, juste pour avoir un bonheur éphémère, un plaisir éphémère. Oh non, s'il te plaît, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je te rends grâce, notre Père, de ce que tu entends les paroles de nos cœurs, de ce que tu nous réajustes ce matin, tu nous recadres ce matin, tu nous refocalises sur toi. Désormais, ce que tu dis être important, nous le disons également important. Désormais, Seigneur, par ta grâce, nous nous engageons ce matin à prendre soin de notre corps, à ne plus laisser nous asservir par quoi que ce soit, ni par les aliments, ni par des plantes, Seigneur, ni par la fornication, par l'adultère. Mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donne la sagesse pour que notre corps soit traité, Seigneur, comme tu veux qu'il soit traité, qu'il soit entretenu comme tu veux qu'il soit entretenu. Parce que c'est notre seule demeure permanente sur cette terre. Tant que nous sommes de passage, le corps que tu nous as donné est la seule maison qui est certaine de nous accueillir en permanence, Seigneur. Alors accorde-nous de prendre soin de cette maison dans laquelle tu nous as placés. Béni sois-tu, notre Père, de ce que tu nous fais mûrir dans le domaine des valeurs. Et tu alignes tes valeurs, nos valeurs sur tes valeurs. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.
Seigneur, voici nos cœurs.